Ménage, on avait l'habitude de faire un catéchisme avec des questions, avec des devinettes. Alors je vais vous en poser quelques-unes pour démarrer. Alors, c'était des questions très simples. Qui est mort et n'est pas né? Je ne sais pas si vous voyez. Adam, évidemment. Qui est né et n'est pas mort? Il y en a deux. Enoch et Élie. Voilà, c'est ça. Qui naquit une fois et mourut deux fois? Lazare, très bien. Qui n'est pas né et ne mourra pas? Qui n'est pas né et ne mourra pas? Un ange. Qui a parlé après sa mort? Samuel. Et enfin, qui a parlé avant de naître? Alors, parler, c'est pas tout à fait parler, mais c'est exprimé, c'est Jean-Baptiste, dans le sein d'Élisabeth. Voilà, et donc ce matin, je voudrais vous parler de Jean-Baptiste. C'est vrai que souvent, on oublie un petit peu sa place. C'est un personnage central dans l'histoire du salut, qualifié de plus grand des prophètes par Jésus lui-même, et souvent un petit peu oublié par la proximité de la venue de Jésus. Alors Jean-Baptiste jouait un rôle très important, on était au Moyen-Âge, il jouait un rôle très important dans la spiritualité du Moyen-Âge. À la fin du Moyen-Âge, il y avait un genre de théâtre qui se déroulait, qu'on appelait des mystères. On jouait des scènes bibliques sur les parvis des cathédrales, et il y avait beaucoup de décors, de costumes, tous les talents de la ville se mettaient, étaient mobilisés à cette occasion. Le but consistait à créer un beau spectacle, mais surtout à affermir la foi, inciter à la méditation sur le sens de l'histoire, de l'avenir et de la destinée éternelle. C'était ça le but qui était recherché. Et au XVe siècle, il y avait un spectacle qui s'appelle le mystère de la Passion, d'Eustache Marcadet, qui était en Picardie, qui a été joué pour la première fois à Arras en 1436, un an après la fin de la guerre de Cent Ans, et il y avait près de 300 acteurs et figurants qui participaient à ce spectacle. Et ces spectacles étaient très longs, ils duraient plusieurs jours. Donc il y avait le premier jour où était jouée la naissance et l'enfance de Jésus, et à cette occasion, une place importante était apportée à la scène de la Visitation, sur laquelle on va revenir. Le deuxième jour, c'était le ministère public de Jésus jusqu'à son arrestation et sa présentation devant Caïphe. Et cette deuxième journée était précédée par une prédication de Jean-Baptiste, sur laquelle on va revenir. Il était également joué la scène du baptême de Jésus et la décapitation de Jean-Baptiste. Le troisième jour, c'était le procès de Jésus avec sa mort, sa mise au tombeau. Et le quatrième jour, la mise au tombeau, la résurrection et l'ascension. Donc dans cette méditation, on prendra de temps en temps quelques exemples tirés de ce spectacle qui était joué à l'époque et qui a été très célèbre au XVe siècle. En abordant ce sujet, j'ai été un peu rempli par la diversité des thèmes concernant Jean-Baptiste, la multiplicité des textes qui sont cités. Alors je vais essayer de faire une synthèse, mais j'avoue que la matière est extrêmement riche, est extrêmement fournie. Il n'est pas évident à rendre un peu de mots. J'ai donc organisé ce message en quatre temps. Donc le premier, la mission de Jean-Baptiste. Quelle était cette mission particulière? Le deuxième, le ministère de Jean-Baptiste, le contenu de sa prédication et le baptême qu'il mettait en œuvre. Troisième aspect, l'attitude de Jean-Baptiste dans le service. Et enfin, la conformité de Jean-Baptiste avec la vie de Jésus, pour terminer. Donc, quatre temps de réflexion concernant Jean-Baptiste. Donc, on commence par la mission de Jean-Baptiste, comme précurseur du royaume de Dieu. Jean-Baptiste a un rôle tout à fait particulier, à la charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre l'alliance d'Israël avec Moïse, la succession des prophètes et l'arrivée de Jésus qui instaure son royaume. Et on va lire dans Matthieu 11, versets 7 à 14. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean : Mais qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent, c'est-à-dire quelqu'un qui était soumis aux diverses opinions du moment. Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits précieux ? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Ce sont les courtisans, ce sont les gens qui sont près du pouvoir. Ce n'était pas le cas de Jean-Baptiste qui vivait dans le désert. Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit : Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité. Ceux qui sont nés de femmes, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Dans ce texte, Jésus évoque donc la mission particulière de Jean-Baptiste comme celui qui prépare sa venue. Et il s'appuie très largement, on va le voir dans tous les textes, sur les prophéties de l'Ancien Testament qui le concernent de façon particulière. Le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, Malachie, avait en effet prophétisé sur la venue de Jean-Baptiste vers 420 avant Jésus-Christ, quatre siècles auparavant. Malachie 3:1, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Et Malachie reprend cette prophétie à la fin de son livre, et c'est d'ailleurs les derniers versets, les tout derniers versets de l'Ancien Testament, ce qui n'est pas par hasard, où il est dit « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Jean est donc le messager de Dieu chargé de préparer la venue de Jésus et l'instauration de son royaume. Sa mission consistera à préparer, à recevoir le royaume instauré par Jésus en permettant d'échapper au jugement à venir pour ceux qui vont le rejeter. Donc Jean-Baptiste s'inscrit donc tout autant dans la lignée des prophètes de l'Ancien Testament avec la référence à Élie. Donc on va voir qu'il a toutes les caractéristiques. Mais il annonce quelque chose de nouveau. À noter que Élie est présent lors de la transfiguration avec Moïse, et Jean-Baptiste est dans cette lignée, dans cette représentation d'Élie le prophète. Et les Juifs de l'époque donc tiraient de ces textes l'idée que Élie le prophète devait précéder la venue du Messie. Pour eux, les choses étaient assez claires dans leur attente à ce sujet-là. Donc voilà ce que dit la prophétie, les prophéties bibliques concernant Jean-Baptiste, mission tout à fait particulière, annoncée par les prophètes longtemps à l'avance. Deuxième éclairage, c'est Jésus lui-même, évidemment, qui évoque à de très nombreuses reprises l'importance du rôle de Jean-Baptiste. On a vu le texte qu'on avait tout à l'heure, où il était dit que tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Les prophéties annoncées dans l'Ancien Testament sont accomplies en la personne de Jean-Baptiste. Jésus l'exprime d'une façon très, très claire. Il valide son ministère particulier dans le désert, où vous savez que Jean-Baptiste s'est retiré, menant une vie de pauvreté, d'ascèse avec ses disciples, en marge des autorités religieuses, des autorités politiques de l'époque, où il était souvent décrié. Donc on a vu que Jésus confirme que c'est bien l'envoyé de Dieu. Le plus grand des prophètes inaugure quelque chose de plus grand et de plus glorieux maintenant. Et c'est pour ça qu'il y a ce verset où il nous dit « Je vous le dis, en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Il est donc le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. « Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Tout cela pour exprimer que le royaume à venir contient une gloire évidemment beaucoup plus grande que la première alliance passée avec le peuple d'Israël au mont Sinaï, avec Moïse. Il s'agit de la révélation éternelle du royaume, avec une dimension beaucoup plus étendue. Ça, c'est le témoignage donc de Jésus lui-même. Je n'ai pas appris tous les textes, il y en a beaucoup à ce niveau-là. Troisièmement, Jean-Baptiste lui-même confirme cet accomplissement prophétique pour ce qui le concerne. Jean 1, 19 à 23. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Mais toi, qui es-tu ?» Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Mais qui donc es-tu ? Es-tu Élie ?» Ce qui était logique par rapport à l'attente des Juifs. Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète ?» Et il répondit « Non. » Mais ils dirent alors, mais qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Et là, il se réfère à une prophétie d'Ésaïe, dans Ésaïe 40, où il y a une image du précurseur, justement, également, du Messie. Donc, il accomplit, effectivement, les prophéties de l'Ancien Testament. Alors, c'est vrai que ce n'était pas toujours facile à comprendre pour les contemporains. Les contemporains n'ont pas compris exactement le rôle de Jésus, mais ils n'ont pas non plus tout à fait compris le rôle de Jean-Baptiste. Et à la question qui est posée « Es-tu Élie ?», il répond « Non, effectivement, il n'est pas la personne d'Élie qui est ressuscité, mais par contre, il est cet accomplissement de l'Élie qui devait venir avant la venue du Messie. » Deuxième aspect concernant son ministère, là on a vu l'identité qui est la sienne, à partir des prophéties, à partir des propos de Jésus, à partir de ses propos lui-même. Son ministère est attesté par de nombreux signes miraculeux lors de sa venue. Donc on ne va pas reprendre le détail de chacune de ces histoires que vous connaissez pour la plupart. Jean-Baptiste apparaît dans un temps qui est finalement assez comparable au nôtre. C'est un monde qui est assez éloigné de Dieu. Depuis 4 siècles, il n'y a plus de prophètes qui s'expriment. Le peuple n'est plus à l'écoute de Dieu et se laisse influencer par les événements de l'époque. Alors, les événements, c'est l'histoire du Proche-Orient à l'époque. Donc, après Malachie, dernier des prophètes, le Proche-Orient a été conquis par les Grecs, Alexandre le Grand, au 4e siècle avant Jésus-Christ, et la culture hellénistique grecque s'est répandue très largement à ce moment-là dans le Proche-Orient. C'est l'empire séleucide, empire grec. Le temple a d'ailleurs été profané à cette occasion. Antiochus Épiphane a installé une statue de Zeus dans le temple de Jérusalem, et avait profané le temple en offrant des sacrifices de porc dans le temple, profanation du temple. Malgré cela, cette culture grecque s'est quand même diffusée largement et elle entre en concurrence directe avec le culte d'Israël. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, il y a eu une réaction des Juifs, c'est la révolte des Maccabées, dont on parle dans des livres apocryphes. Donc il y a eu une révolte juive, et puis les Grecs ont été chassés, et un État juif centré sur le temple, centré sur le Sanhédrin, a été instauré à partir du IIe siècle. Ce pouvoir a créé une dynastie qui s'appelle la dynastie Hasmonéenne, mais qui très rapidement a été influencée à nouveau par la culture grecque qui était importante à l'époque. Et puis à partir de 63 avant Jésus-Christ, Jérusalem a été conquise par les Romains, donc qui s'imposent très rapidement, et qui finalement mettent fin à la dynastie Hasmonéenne et mettent en place une propre dynastie avec le roi Hérode, donc qu'on retrouve, qui était un représentant finalement du pouvoir occupant romain. Donc une histoire humaine qui se déroule au cours de ces siècles-là. Donc à l'époque de Jean-Baptiste, on est dans un monde où il y a d'importantes injustices sociales entre une classe dominante, hellénisée pour la plupart, et riche, et puis le peuple. Il y a une occupation donc politique par les Romains, représentée par, donc on voit Pilate pour les Romains, mais Hérode, qui représente un pouvoir tyrannique, un pouvoir autoritaire. Il y a une religion juive qui a été mise en place, qui est plutôt conservatrice, qui est plutôt sclérosée, basée sur des lois, des rites à observer. Et il y a de profondes divisions d'opinion. Il n'y a pas d'unité à cette époque-là. Il y a les collaborateurs romains qui adoptent la culture gréco-romaine. Il y a des nationalistes juifs intransigeants qui veulent mettre fin à cette occupation. Au niveau religieux, il y a les sadducéens libéraux proches des milieux hellénistiques et les pharisiens rigoristes qui veulent revenir à une application stricte de la loi. Il y a beaucoup de courants d'opinion qui circulent à ce moment-là. Donc un monde très fragmenté qui finalement est assez comparable au nôtre. Et c'est dans ce monde-là que Jean-Baptiste apparaît. Alors on connaît les récits, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc d'abord il y a l'annonce miraculeuse de sa naissance, donc du temps d'Hérode, donc Zacharie est sacrificateur avec sa femme Élisabeth. Ils sont déclarés justes devant Dieu. Ils n'ont pas d'enfants. Élisabeth est stérile, ce qui était une opprobre dans la société de l'époque, et ils sont avancés en âge. Zacharie est choisi pour offrir le parfum dans le temple, ce qui était rare, c'était peut-être une occasion unique dans la vie, parce qu'à l'époque, il y avait plus de 2400 sacrificateurs en fonction, 24 classes sacerdotales, et donc la probabilité d'officier dans le temple était faible. C'était donc un moment important pour lui. Et c'est alors que dans le temple, vous le savez, il reçoit une révélation. Donc on va lire parce qu'elle nous donne des éléments sur l'identité de Jean-Baptiste. Marc 1, 10 à 17. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. La mission de Jean-Baptiste est très clairement exprimée dans cette prophétie que reçoit Zacharie. Consterné et bouleversé, il doute de l'accomplissement de cette révélation et devient muet, vous le savez, jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Donc, premier miracle. Deuxième miracle, c'est la visitation de Marie auprès d'Élisabeth. Donc, Élisabeth est cousine de Marie, qui a également reçu la révélation de la naissance de Jésus. À ce moment-là, c'est l'Annonciation. Elle se trouve également enceinte. Elle vient rendre visite à Élisabeth. C'est la scène de la visitation qui est très largement reprise par les artistes de toutes les époques. Dès que Marie arrive, le petit Jean-Baptiste entre encore dans le sein d'Élisabeth, tressaille de joie. Et s'ensuit une série de prophéties. Donc Élisabeth reçoit une prophétie concernant la promesse faite à Marie lors de l'Annonciation. Et Marie elle-même reçoit une prophétie, c'est le cantique de Marie, le Magnificat, qui est donné à cette occasion. Donc une effusion de l'esprit extraordinaire lors de cette rencontre. Cette scène est largement reprise dans le spectacle, le mystère de la Passion, qui met en scène donc une rencontre pleine d'affection entre Marie et Élisabeth. Et trois aspects sont soulignés au cours de ce spectacle. C'est tout d'abord le lien de parenté qui existe entre Élisabeth et Marie pour indiquer que le salut s'inscrit dans le cadre d'une famille toute simple et peut concerner tous les auditeurs du spectacle. Ce n'est pas réservé à une élite particulière. Deuxième aspect, dans la scène telle qu'elle est jouée, c'est le bonheur et la plénitude pour les deux femmes qui préfigurent la joie parfaite de la mission salvatrice que le Christ va accomplir et que le Christ accomplit. Cette notion de joie revient tout au long de ce spectacle d'une façon très importante. Et la scène se termine par le chant du Magnificat, donc un chant en 60 vers donc, qui conclut cette scène importante. Donc deuxième signe miraculeux, donc l'annonce de la naissance, la visitation, et puis troisième signe miraculeux, la naissance elle-même. Donc la naissance a lieu à son terme, et Zacharie recouvre subitement la parole après avoir donné le nom de Jean. Et il se met à nouveau à prophétiser concernant Jean-Baptiste à ce moment-là. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Alors moi, ce qui m'a frappé dans cette histoire-là, c'est que Jean-Baptiste n'y est pour rien. Les prophéties ont été données avant même sa naissance. Il est rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère avant même d'avoir accompli quoi que ce soit. Et enfin, son arrivée est miraculeuse. C'est Dieu qui conduit toutes ces circonstances-là. Et donc, on peut voir par là que c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui conduit les circonstances et c'est lui qui nous qualifie pour son œuvre. Avant même toute action, Dieu l'avait choisi pour cela. Je crois qu'on n'est pas Jean-Baptiste, mais je pense que Dieu nous a appelés, nous a choisis chacun pour notre part, d'une façon particulière, de toute éternité. Et Jean-Baptiste est rentré dans l'œuvre que Dieu avait préparée pour lui. Mais c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui qualifie, c'est Dieu qui prépare, c'est Dieu qui conduit. Et je trouve que c'est une grande confiance qu'on peut avoir à ce niveau-là. La mission de Jean-Baptiste était très particulière, mais nous, comme lui, nous sommes dans un monde assez comparable, comme on l'a dit, appelé à une œuvre, à une mission qu'il a préparée pour lui. Un psaume nous dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » C'est la souveraineté, c'est la préscience de Dieu dans nos vies. Voilà pour la mission de Jean-Baptiste. Donc on aborde le deuxième sujet, c'est le ministère maintenant de Jean-Baptiste. Très rapidement, donc Jean-Baptiste se retire dans le désert. Luc 1,80 nous dit « Or l'enfant croissait, et se fortifier en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Il s'est donc formé dans le désert, on ne sait pas sur quelle durée, combien de temps, on n'a pas de détails à ce niveau-là. Il est quand même frappant de voir cette préparation au désert des grands hommes de Dieu de la Bible. Moïse a passé aussi des années dans le désert, Élie, et puis Jésus lui-même, après son baptême, passe un temps également dans le désert. On sait qu'il menait une vie de pauvreté, d'ascèse, habillé de vêtements de poils de chameau, il se nourrissait de sauterelles, c'est l'image d'Élie dans l'Ancien Testament qu'on retrouve ici. Donc c'est quelqu'un qui est en marge de la société, quelqu'un qui peut provoquer une remise en question, une contestation par son mode de vie. Et il regroupe quelques disciples et se met à prêcher et à baptiser dans le désert de Judée. Et sa prédication a un grand impact. Il est dit que de grandes foules venaient à lui de toutes conditions sociales. Alors quelle était cette prédication qui attirait ces foules-là? Alors on a vu que sa prédication a pour but de préparer le peuple d'Israël à recevoir Jésus. Et elle est articulée autour de deux idées principales. La première, c'est un appel impérieux à la repentance afin d'échapper au jugement à venir. Et cette repentance était concrétisée par un baptême. Et la deuxième aspect, c'était l'annonce de la venue de Jésus, de la venue imminente du Messie, qui viendra pour pardonner nos péchés et pour établir son royaume. Le baptême de Jean ne conférait pas directement le pardon des péchés, c'était plutôt une reconnaissance publique de ses péchés et un engagement public à y renoncer. Évidemment, cette démarche ne se conclut que par l'œuvre de Jésus, qui vient par la suite, qui lui a le pouvoir de pardonner les péchés. Donc premier aspect, l'appel à la repentance. Il nous est dit que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des prophètes Ésaïe, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Et là on cite le passage d'Ésaïe, dans son ministère, il accomplit ce qui était annoncé par Ésaïe. C'est quelque chose qui est constant tout le long de son ministère. La prophétie évoque les vallées qui sont aplanies, les collines qui seront abaissées, c'est-à-dire il est là pour faire disparaître tous les obstacles qui empêchent de s'approcher de Jésus, de celui qui vient, de s'approcher du Messie. C'est un prophète évidemment radical, qui s'adresse à toutes les catégories sociales, dénonçant l'injustice, l'hypocrisie. Et vous savez qu'il y a les pas de main morte dans son discours. Luc 3, 7 à 14, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ne vous appuyez pas sur vos traditions. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Mais la foule l'interrogeait, disant, mais que devons-nous donc faire ? Il leur répondit que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire ? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Les soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire ? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Donc on voit une exhortation pratique. Il ne s'agit pas de dire, il s'agit d'être dans une attitude juste. Il dénonce l'injustice, il dénonce les faux-semblants. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Ce discours était un discours de vérité qui attirait les foules. Ça peut paraître curieux, un tel message aussi dur, aussi radical, aussi difficile. Hein. Les gens savaient que c'était la vérité. Et donc, venez en foule. Hein. La repentance est effectivement un préalable incontournable pour s'approcher de Dieu. Et on voit que les pharisiens, les chefs religieux, n'ont pas, pour la plupart, accepté de rentrer dans cette démarche. Les pharisiens et les docteurs de la loi, ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu, nous dit Luc 7, 29 à 30. Cette prédication était radicale dans le sens qu'il n'y avait que deux positions possibles. Ou on s'engageait dans une démarche de repentance en vue du pardon des péchés, ou alors on refusait, et à ce moment-là, on attendait un jugement qui allait venir aussi. L'arrivée du Messie permettrait d'instaurer le royaume avec le pardon des péchés, ou alors un jugement. Et donc, on a vu que le jugement est très clairement annoncé dans cette prédication. La cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Luc 3, 17, il a son vin à la main, il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est un discours radical, ce n'est pas du politiquement correct, c'est quelque chose d'extrêmement clair. Donc il y a un tri qui se fait au sein du peuple de Dieu avant l'arrivée du Messie. Mais son message ne s'arrête pas, évidemment, à dénoncer les injustices, à annoncer le jugement. On a vu que le deuxième aspect de son message, c'est annoncer la venue imminente du Messie, du roi des rois, qui vient pardonner les péchés, instaurer son royaume éternel. Son message est une bonne nouvelle, même si elle passe par la repentance dans un premier temps. Il est dit dans Jean 1, 6, « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. » Donc c'est un thème tout à fait fondamental. Dans le mystère de la Passion, le deuxième jour, donc Jean apparaît vêtu de peau de chameau et il prêche avec quatre idées qui sont développées dans le spectacle. Il commence par dire qu'il ne sera pas trop long et ennuyeux et il justifie son propos par le souci qu'on doit avoir de son propre salut, qui doit être la motivation première de tous les auditeurs. Le thème central, c'est évidemment « Faites pénitence, car le royaume de Dieu est proche. » Mais au-delà de l'austère ermite du désert, qui ne parle que de pénitence, il prêche, et ça revient très souvent, de la joie du salut. Il s'adresse à toute créature qui quiert la joie souveraine, c'est les termes de l'époque. Il encourage ses auditeurs en ces termes « Je vous admoneste la voie de recouvrer parfaite joie. » C'est-à-dire que ce chemin de la repentance est le seul chemin qui mène à la vraie joie pour tous les auditeurs. Et donc cette prédication se conclut par un baptême de repentance qu'on a évoqué, donc acte public où on confessait son péché et on s'engageait à y renoncer. C'est dans ce contexte que, vous le savez, Jésus se présente lui-même devant Jean pour être baptisé, alors qu'il était évidemment le seul qui n'avait pas besoin de repentance, mais il s'identifie évidemment à nous. Et c'est à ce moment-là que Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit, et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Donc révélation extraordinaire lors de ce baptême de Jésus devant Jean. Voilà, donc cette partie-là, donc, concernant son ministère, il y a beaucoup de choses à dire, hein, c'est un peu en résumé. Mais on peut voir que la repentance était le chemin principal pour préparer la venue du royaume. Et je pense que c'est une réalité pour nous aujourd'hui. On ne peut pas s'approcher de Dieu, on ne peut pas s'avancer dans la marche avec Dieu sans cette démarche qui doit être renouvelée dans nos vies. C'est quelque chose qui fait partie du chemin que Dieu met devant nous. Et cette repentance nous mène donc vers un chemin de plénitude et de joie, parce qu'elle nous permet d'accéder à l'œuvre pleinement de Jésus dans nos vies. Ça nous permet d'y accéder. À défaut, on risque de passer à côté des projets de Dieu. C'est malheureusement ce qui est arrivé avec les chefs religieux qui finalement n'ont pas reconnu Jean, n'ont pas reconnu le Messie et ont crucifié Jésus au final. Donc voilà pour le ministère de Jean. Troisième aspect qui m'a frappé concernant Jean-Baptiste, c'est son attitude d'humilité extraordinaire et d'obéissance. C'est quand même un ministère tout à fait singulier, qui est marqué par un effacement progressif au profit de Jésus, effacement qu'il accepte dans l'obéissance. Son ministère était, on a vu qu'il y avait des foules qui venaient auprès de lui. Et puis quand Jésus est arrivé, petit à petit, les foules sont allées vers Jésus et lui a accepté de diminuer. S'effacer devant le Christ, il faut qu'il croisse et que je diminue, ce sont ses propres paroles. Jean annonce la supériorité du Messie qui vient après lui de façon très claire tout au long de son ministère. Jean leur répondit, Jean 1, 26, « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient. Après moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Porter les souliers, c'était la tâche la plus vile qui était donnée aux esclaves à l'époque. Et après le baptême de Jésus et le début de son ministère public, comme on l'a vu, Jean accepte que plusieurs de ses disciples le rejoignent. Jean 3, 25, « Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. » C'était des sujets très, très prisés à l'époque. Ils vinrent retrouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. » C'est une image extraordinaire, hein, de proximité, de communion avec Jésus. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est là qu'il prononce cette parole. La marche avec Dieu est marquée par l'humilité. C'est une humilité volontaire dont il est question ici, qui n'est pas du tout subie, au-delà de toute contrainte. Et sa particularité, dans l'exemple de Jean-Baptiste, est qu'elle provoque la joie, une joie profonde. Cette joie qu'il éprouve à cause de la voix de l'époux, cette joie qui est la sienne à l'approche du Maître. Là, nous sommes également tout à fait opposés à nos valeurs naturelles, aux valeurs de ce monde, où on essaie de se mettre en avant par nos compétences, par nos capacités. Jean-Baptiste accepte de s'effacer peu à peu. Dernier aspect, donc c'est la destinée de Jean-Baptiste et sa conformité avec Jésus lui-même. À partir de là, on a l'impression que la vie de Jean-Baptiste va suivre un peu la trajectoire de celle de Jésus lorsqu'il était sur cette terre. Vous savez que donc Jean-Baptiste est finalement mis en prison parce qu'il ose dénoncer la vie dissolue d'Hérode Antipas, donc le fils d'Hérode le Grand, qui avait pris la femme de son frère. On voit toute la hardiesse de Jean-Baptiste qui n'hésite pas à faire des remarques à Hérode Antipas, qui était un véritable tyran. C'était un risque majeur, je pense, de faire ce type de remarques à l'époque. Hérode Antipas, d'ailleurs, a été déposé pour l'histoire par l'empereur Caligula pour ses excès de pouvoir. Et il a été destitué, finalement, par l'empereur Caligula, et d'ailleurs déporté dans le sud de la Gaule. Il a été déporté à Saint-Bertrand de Comminges, qui est au sud de Toulouse, très éloigné de la Palestine, et il aurait terminé sa vie à Lyon. Voilà. Donc c'était un véritable tyran. Voilà. Donc il est dit que Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousé. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. À noter que Hérodiade, d'ailleurs, a suivi Hérode en Gaule, d'ailleurs, à cette époque-là. Donc c'est évoqué par Flavius Joseph dans ses mémoires. Voilà. Donc comme Joseph ou Jérémie, Jean-Baptiste se retrouve en prison pour une durée qui ne nous est pas précisée non plus à ce moment-là. Et c'est là, au cœur de l'épreuve, qu'il se questionne sur le ministère de Jésus, qu'il ne comprend pas précisément. Ce que Jésus fait ne correspond pas à ce qu'il attendait, probablement. Comme tous les Juifs de l'époque, il avait une attente messianique de la mise en place d'un royaume glorieux. Pourtant, le monde paraît toujours le même. Lui, il est en prison. Les Juifs n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie. Et pourquoi Jésus n'exerce-t-il pas son autorité messianique pour imposer le royaume à tous ses ennemis? Beaucoup de questions se posent, et ce sont les questions de ses contemporains. C'est les questions des disciples eux-mêmes de Jésus qui n'ont compris qu'après la résurrection ce que Jésus est venu faire. Et donc, n'y tenant plus, il engage une mission. Luc 7, 18, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Jésus ne fait aucun reproche à Jean-Baptiste. En revanche, il lui donne des signes très précis d'accomplissement des prophéties messianiques de l'Ancien Testament, qu'on retrouve dans le prophète Ésaïe en particulier. Il lui répond, « Ce que j'accomplis, c'est ce que les prophètes ont annoncé. » Il rassure Jean-Baptiste sur sa mission. Les choses ne se passent pas comme Jean-Baptiste le pensait, mais il accomplit ce qui était prévu. Je pense qu'on n'a pas on ne sait pas quelle était la réponse de Jean-Baptiste, mais on peut penser qu'il a été rassuré, que la réponse de Jésus était adaptée à la situation de Jean-Baptiste à ce moment-là. Deuxièmement, donc, la vie de Jean-Baptiste va être, comme on le disait, conforme un petit peu à la fin de la vie de Jésus lui-même. Vous connaissez l'histoire, hein, Jean-Baptiste est finalement mis à mort, comme Jésus, dans un contexte injuste, suite à un serment insensé d'Hérode Antipas à Salomé, donc la fille d'Hérodiade, qui a dansé devant lui, qui a demandé la tête de Jean-Baptiste. Comme les convives étaient là, il n'a pas osé refuser, donc on est allé décapiter la tête de Jean-Baptiste. Et on l'a présenté sur un plat à Salomé devant tous les convives qui étaient dans ce banquet. Une mort injuste dans des conditions tout à fait effroyables. Ainsi se termine de façon tragique la vie de ce héros de la foi. Tragique évidemment sur le plan humain, car Jean-Baptiste, évidemment, comme on l'a vu, est le plus grand des prophètes. Après la transfiguration, donc quelque temps après la mort de Jean-Baptiste, Matthieu 17, 9 nous dit, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision, c'est-à-dire de la transfiguration, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question. Mais pourquoi donc les scribes, disent-ils, qu'Élie doit venir premièrement? Alors pourquoi ils sont perturbés par cette question? Parce qu'ils ont vu une image d'Élie pendant la scène de la Transfiguration. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc il y a quelque part cette proximité, cette association finalement entre la vie du disciple et la vie du maître dans ce déroulement du plan de Dieu finalement qui s'accomplit là. Voilà donc les quelques aspects, mais c'est tellement riche effectivement qu'il y a énormément de choses concernant Jean-Baptiste. En conclusion, on peut dire que, si on veut revenir au mystère de la Passion, la dernière apparition de Jean-Baptiste est un chant pour exprimer la joie du salut. Et le spectacle, donc, dans tout le spectacle, l'enseignement et la vie de Jean, depuis sa naissance jusqu'à son martyre, confirme cette constante de sa pensée et de sa foi basée par la joie du salut, la joie de l'œuvre accomplie par Jésus. Donc l'auteur de ce mystère offre aux habitants d'Arras du XVe siècle, époque troublée, hein, la guerre de 100 ans, les guerres, les épidémies, époque difficile, hein, cette méditation en action pour les rassurer sur leur foi dans ce contexte qui est difficile. Et je crois que cette méditation de Jean-Baptiste s'adresse aussi à nous, évidemment, aujourd'hui, dans un monde qui est agité, difficile, éloigné de Dieu, dans lequel nous vivons, le mystère de Jean-Baptiste reflète toute son actualité. Nous sommes appelés à manifester la venue du royaume de Dieu dans ce monde très comparable à celui de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était une lumière qui préparait le royaume, et je crois que chacun de nous, dans notre part, on n'est pas Jean-Baptiste, hein, mais nous avons aussi cette mission de préparation du royaume. La repentance reste la seule voie pour s'approcher de Dieu, dans la vérité. La repentance, on n'aime pas trop ça à notre époque. Hein. On préfère relativiser, on préfère trouver tout un tas d'excuses, mais ça reste la seule voie possible pour nous. L'humilité et la joie accompagnent cette démarche. Et j'insisterai sur la joie du salut qui était reprise dans le spectacle qu'on disait et qui est reprise tout le long du ministère de Jean-Baptiste. C'est un fruit de cette démarche avec Dieu, la joie et l'humilité. Alors ça paraît incompatible, l'humilité c'est plutôt un sujet de tristesse pour nous naturellement. Là, l'humilité amène à la joie. On voit la joie de Jean-Baptiste lorsqu'il s'efface au profit du Christ. Et c'est cette joie de l'ami de l'époux qui est, je trouve, absolument extraordinaire dans cette démarche. C'est un chemin d'espérance qui nous ouvre une destinée éternelle. Que Dieu nous aide à rentrer dans cette voie. Amen.